deux prédications dans une seule. Luc 14, verset 15 à 30, 25 à 30, 40. Je lis au nom du Seigneur. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas à ma suite ne peut pas être mon disciple. En effet, lequel d'entre vous, quand il veut bâtir une tour, ne commence pas à s'asseoir pour calculer la dépense et juger s'il a de quoi aller jusqu'au bout. Autrement, s'il pose les fondations sans pouvoir terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui. Ils diront, voilà un homme qui a commencé à bâtir et qui n'a pas pu terminer. Aucun roi, quand il part faire la guerre à un autre roi, ne commence par s'asseoir pour considérer s'il est capable avec 10 000 hommes d'affronter celui qui marche contre lui avec 20 000. Sinon, pendant que l'autre est encore loin, il envoie une ambassade et demande à faire la paix. De la même façon, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, ne peut être mon disciple. Oui, c'est une bonne chose que le sel, mais si le sel lui-même perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour les fumiers. On les jette dehors. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui en un jour particulier de notre foi, celui de la célébration de la Pentecôte. Mais aussi un jour où nous ouvrons des messages, une série de messages sur la semaine de baptême que nous commençons déjà demain. C'est ainsi que j'ai été obligé, selon la demande et même la manière dont nous sommes convenus avec ma vie, que chaque pasteur devra rester dans sa paroisse avant d'aller dans l'autre paroisse pour que nous puissions célébrer à la fois la Pentecôte, mais aussi introduire les messages qui vont animer toute cette semaine. C'est une tâche difficile et je crois que le Seigneur va nous faire grâce, même si je ne pourrai pas le faire seulement en 30 minutes. Le thème de cette journée, c'est l'action du Saint-Esprit dans le devenir disciple dans la vie de l'Église. Quelle est l'action du Saint-Esprit dans le fait de devenir disciple et aussi dans la vie de l'Église? Nous allons d'abord introduire ce message en montrant que la Pentecôte est un fait inhabituel pour une dimension de vie à laquelle le Seigneur est en train d'appeler chacun de nous. Deuxièmement, nous parlerons de la venue de l'Esprit qui opère un bouleversement total dans la vie de quelqu'un. Et nous allons conclure. La Pentecôte est un événement qui survient comme un coup de surprise. Si vous lisez le passage de Actes Apôtres chapitre 2, c'est arrivé au moment où on s'y attendait le moins. Parce que Jésus a dit aux disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit envoyé et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Les disciples sont en train de prier et pendant qu'ils prient, au moment où ils ne le croient pas, le Saint-Esprit survient. La manière dont l'Esprit fait irruption est aussi inhabituelle et cela à deux niveaux. Vous avez bien, très bien lu le texte, il est dit qu'il y a un bruit comme venant du ciel et comme un souffle violent qui va remplir toute la maison. Imaginez-vous, les gens sont en train de prier et ils sentent à un moment donné un vent qui vient comme un souffle violent et qui remplit toute la maison. Et quelques temps après, ils constatent qu'il y a des langues de feu qui s'est partagée et qui s'est posée sur chaque disciple qui était là. Ça devient une affaire inattendue, mais en même temps qui surprend les disciples. Alors l'irruption du Saint-Esprit va être comme un coup de tonnerre dans la ville. Il y aura une rumeur qui va circuler dans toute la ville de Jérusalem. Et beaucoup de gens vont arriver pour constater ce qui se passe. Il y en a même qui vont se poser beaucoup de questions par rapport à ça. La première leçon que nous devons retenir ici, si vous êtes indifférent, si vous êtes resté la même personne, si vous aspirez à un changement dans votre vie et ce changement ne vient pas, si votre vie chrétienne connaît des hauts et des bas, vous avez donc besoin d'expérimenter cette irruption du Saint-Esprit. Alléluia. Ma prière ce matin est que chacun de nous accepte de se laisser visiter par le Saint-Esprit. Et que la Pentecôte cesse d'être un événement à célébrer tout simplement, mais que chacun reçoive sa propre Pentecôte. Alléluia. Il y a deux mamans qui m'ont demandé rendez-vous pour que nous puissions prier ensemble il y a deux semaines, il y a une semaine et demie. Et pendant qu'on était en train de prier, on était vraiment à la fin, on m'a posé la question, « Pasteur, quel est votre sujet de prière pour la paroisse ?» J'ai dit, « Je demande un réveil. » Je demande au Seigneur qu'il y ait un réveil. Je demande au Seigneur donc qu'il y ait une opportunité que Dieu présente à chacun d'entre nous pour que nous puissions nous sentir visités par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous avons lu dans le texte de Actes Apôtres chapitre 2 où on cite le prophète Joël. Le prophète Joël qui est cité par Pierre, il dit ceci, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards, qu'est-ce qu'ils feront? Ils auront des songes. Vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, en ce temps-là, je répandrai mon esprit. » Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, « Je placerai les prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang à l'avènement du jour du Seigneur grandiose et redoutable. » L'auteur de l'acte des apôtres est en train de citer Joël chapitre 3, versets 1 à 4, où le Seigneur lui-même avait promis, comme nous l'avons chanté au début du culte, il avait fait une promesse qu'il répandrait son esprit sur toute chair. Et cette promesse est en train de se réaliser 50 jours après la résurrection du Christ. C'est pourquoi on l'appelle Pentecôte. Pentecôte 50e. C'est 50 jours après la Pâque que survient la Pentecôte. La promesse se réalise. Et lorsque cette promesse se réalise, nous devons comprendre une chose importante, c'est que c'est par l'Esprit de Dieu que Dieu se donne entièrement à chaque être humain. Le Saint-Esprit, c'est le signe du bonheur dont Dieu veut combler chacun d'entre nous. Il est donné à tous, aux enfants, aux jeunes, aux vieillards, toutes les catégories sont concernées par rapport à la réception du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas réservé à quelques personnes privilégiées. Il est là pour tous, évidemment pour ceux-là qui seront prêts à l'accueillir. Le Saint-Esprit vient arracher le désastre dans notre vie. Le Saint-Esprit vient déraciner le mal qui a envahi notre vie. Le Saint-Esprit veut nous conduire fondamentalement à une nouvelle dimension de vie dans notre relation avec le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas vivre une vie chrétienne normale parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Il y a des gens qui ne sont pas en mesure de vivre une vie authentique, une vie que les autres vont désirer avoir, parce que le Saint-Esprit n'opère pas. Il y a des gens qui ne seront pas en mesure de vivre une vie de prière intense. Ils prient pendant que les choses ne marchent pas. Mais en tout cas, à l'autre moment, ils ne prient plus. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Le prophète Joël qui a fait cette promesse n'a pas prévu que ça se réaliserait au temps de Pierre. Et c'est Pierre qui sera le tout premier à annoncer ce message que le Saint-Esprit est arrivé. Deuxième chose, la venue de l'Esprit opère un bouleversement total. Comment l'Esprit peut opérer? Comment l'Esprit peut bouleverser totalement la vie de quelqu'un? Bien-aimé, ce bouleversement est à la fois intérieur, mais aussi extérieur. Intérieur pourquoi? Intérieur parce que celui ou celle qui a été saisi par l'Esprit de Dieu ressent un combat au-dedans de lui. Il y a la chair qui tire d'un côté, mais il y a aussi l'Esprit de Dieu qui tire d'un côté, d'un autre côté. Il y a le monde qui tire, mais il y a aussi l'Esprit qui tire. Mais parce qu'il est saisi par l'Esprit, il sera porté urgentement, s'il veut marcher selon l'Esprit, il sera porté à faire non pas ce qu'il veut, mais ce que Dieu veut. Alléluia. Est-ce que nous tous, nous faisons ce que Dieu veut? Est-ce que chacun de nous peut affirmer que chaque jour, il entend la voix du Saint-Esprit et il agit selon la direction du Saint-Esprit, même face aux grandes décisions qu'on peut prendre dans sa vie? Probablement, l'Esprit ne vous a jamais bouleversé. Le Saint-Esprit aussi agit de l'extérieur. Parce que là où le Saint-Esprit a opéré, les transformations sont visibles. Ça ne se cache pas. Là où une personne a été saisie par le Saint-Esprit, il ne restera plus la même personne. Ça, c'est clair. Parce que quand l'Esprit a envahi la vie de quelqu'un, il supplante même nos facultés sensorielles. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que désormais, vous serez à mesure de sentir ce que les autres ne sentent pas. Vous serez à mesure de voir Dieu là où les autres, les yeux sont complètement bouchés. Vous serez même à mesure d'entendre la voix. La voix de Dieu qui vous appelle à ceci ou à cela. Et vous ne serez en paix que lorsque vous allez décider de faire ce que Dieu vous demande de faire. Alléluia. La Bible nous parle de Jésus. À Marc chapitre 12, verset 46 à 50, j'ai l'impression que sa mère commençait à croire que son fils est devenu fou. Ils se sont arrangés, elle et ses frères, si vous lisez bien ce passage, pour dire nous allons les voir, on va les retirer de la foule où il est. Parce qu'en fait, il se réveille chaque matin, il va prêcher. Le lendemain matin, il part, il rentre le soir. Parfois même il reste là, il continue à prêcher. Toute la nuit, il peut être en train de prier. Et la maman constate que quelque chose ne va pas. Alors, ce texte-là nous dit que Jésus, on est allé le chercher. Et quand on arrive, on envoie une ambassade. À l'intérieur de la maison, il était entouré d'une foule. On lui dit, ton père et tes frères, ta mère et tes frères te cherchent. Jésus répond, il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Celui-là est mon frère, celle-là est ma mère, celle-là est ma sœur, celui qui fait la volonté de Dieu ou qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Si c'était votre fils, les mamans, si c'était votre fils, vous diriez, allez, j'avais mis dans la cible. Ça, c'est pas normal. Qui est mon frère? Qui est ma sœur? Qui est ma mère? Si ce n'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Bien-aimés, je voudrais vous dire que ceux qui sont saisis par l'Esprit sont des fous de Dieu. Fous de Dieu. Ils se sentent appelés à faire ce que le Seigneur
leur demande de faire.
Ils sont en mesure même de relativiser les rapports familiaux. Les rapports qui m'unissent à mon père, qui m'unissent à ma mère, qui m'unissent à mes frères et sœurs sont en seconde position. Comme nous allons le voir tout à l'heure dans Luc chapitre 14, par rapport à ce que Dieu veut. Alléluia. Ces gens-là sont des fous. Ils n'ont peur de personne. La seule crainte qu'ils peuvent avoir, c'est craindre le Seigneur. Parce qu'ils sentent Dieu là où les hommes ne le sentent pas. Ils voient Dieu là où les hommes ne le voient pas. Ils peuvent entendre la voix de Dieu qui les appelle. Nous avons un frère à la Ligue pour la lecture de la Bible, qui est devenu aujourd'hui directeur général de la Ligue pour la lecture de la Bible, qui était en train de travailler à la Gécamine. Du temps où la Gécamine donnait le meilleur salaire de la RDC, du Zaïre. Mais il s'est converti. Et il aime le Seigneur. Parce qu'il aime le Seigneur, il entend le Seigneur l'appeler à abandonner tout, abandonner un poste à la Gécamine. Si c'était vous, vous pouvez l'abandonner. C'est bien aimé là. Au moment où personne s'y attendait le moins, il a sacrifié, il a tout abandonné. Et s'est retrouvé à la Ligue pour la lecture de la Bible, en train de conduire la Ligue de Lubumbashi. Sans assurance de salaire. Et cela a fait des années. C'est beaucoup d'années plus tard que Dieu l'appelle à devenir le directeur général de la Ligue. Mais ceux qui l'ont vu prendre cette décision ont su qu'il est fou. Ce n'est pas normal. Parce qu'il a pris une décision qu'on ne peut pas prendre. Bien aimé, le comportement de ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, c'est un comportement qui doit déconcerter les gens, qui doit troubler les gens autour de vous, qui doit les amener à être perplexes, comme le texte l'a dit, à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Mais lui fait ce que le Seigneur lui demande de faire. On constate ici Pierre, dans les Apôtres chapitre 2 que nous avons lu, qui était connu comme Froussard, parce qu'il a renié son maître combien de fois? 3 fois. Et quand Jésus l'a regardé, il a pleuré amèrement. Qui était inconstant? Il prend telle décision et après ça ne marche pas. Il est le seul qui a dit aux disciples, il a dit à Jésus, tout le monde pourra t'abandonner, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Jésus lui dit, toi, avant que le coq ne chante une fois, tu m'auras renié 3 fois. Il est la personne à qui, quand Jésus pose la question, mais qu'est-ce que les gens disent que je suis? Pendant que les autres parlent de Jérémie, et ils parlent d'un autre prophète, lui dit, toi tu es le fils de Dieu, tu es le Messie, le fils de Dieu vivant. Et Jésus dit, tu ne dis pas cela, parce que cela t'a été révélé par un homme, mais parce que Dieu te l'a révélé. Mais quelques temps après, la même personne, quand Jésus lui dit qu'il va mourir, il dit non, ça ne va pas t'aider. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Il est inconstant. Mais le jour de la Pentecôte, il devient un autre type de personne. L'Esprit de Dieu qui opère va sensiblement le transformer, de manière que Pierre va faire l'une des plus grandes et inégalables prédications. Vous avez lu, quand nos deux sœurs étaient en train de lire, c'est un message très fort. Il s'attaque même à ceux qui ont tué Jésus, ceux qui l'ont fait crucifier, ceux qui l'ont arrêté, ceux qui l'ont fait crucifier. Mais parce que Dieu lui a donné raison, il n'est pas resté dans la tombe. Il dit, ces gens-là dont vous dites qu'ils sont sourds, qu'ils ont bu du vin, ils ne le sont pas. Nous sommes à 9h du matin, comment ils peuvent être sourds? Pierre a connu un bouleversement, un retournement dans sa propre vie. Alors venons-en maintenant à Luc chapitre 14, versets 25 à 35. Jésus est suivi de grandes foules. La Bible ne parle pas de la foule, mais des grandes foules. Il se retourne. Il se retourne pour clarifier les choses. Il dit ceci. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer, à qui? À son père. À qui encore? À sa mère. À qui encore? À sa femme. À qui encore? À ses enfants, à ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, n'est pas digne d'être mon disciple. Je peux demander à chacun de faire un petit exemple. Qui a la préférence dans ta vie? Tu es une femme mariée, c'est ton mari? Tu es un homme marié, c'est ta femme? Tu es un enfant, ce sont tes enfants? Tu es un enfant, ce sont tes parents? Ou tes parents, ce sont tes enfants. C'est juste un petit test. Nous allons constater que remplir cette condition, c'est celle-là qu'il faut remplir pour être disciple. Jésus demande une préséance. Jésus sollicite une prééminence. Il sollicite une primauté par rapport aux liens familiaux, qui sont des privilèges que nous avons tous. Mais lorsque lui intervient, pour une question ou pour une autre, il faut qu'il ait la primauté. Alléluia. Une manière de dire que la question d'être disciple n'est pas une question d'enthousiasme. Nous allons le dire demain. Ce n'est pas une question d'impulsion sentimentale. C'est une décision à ne pas prendre à la légère. Est-ce que je suis en mesure de préférer le Christ par rapport à ma femme, par rapport à mon mari, par rapport à mes parents, par rapport à mes enfants, par rapport à mon travail, par rapport à mon statut social, par rapport à mes biens, par rapport à mon présent et à mon avenir. Parce que il y a un risque que Dieu te demande de décider de sacrifier même ton avenir pour faire ce qui lui honore. C'est que l'homme. Il dit, si quelqu'un n'est pas en mesure de sacrifier sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Si tu n'es pas en mesure de sacrifier ton ego, ton moi égocentrique, parce que nous aimons bien nous-mêmes, et c'est normal qu'on s'aime. Mais notre moi plutôt, ne doit pas nous empêcher de faire ce que le Seigneur nous demande. Haïr sa propre vie. Accepter de sacrifier ses intérêts personnels pour honorer le Seigneur. Sacrifier sa propre vie pour se maintenir à suivre le Christ chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il neige. En temps de paix comme en temps de guerre, en temps d'abondance comme en temps de disette, en temps de maladie comme en temps de bonne santé, c'est reconnaître vivre rien que pour le Christ. Ce message que Jésus adresse à la foule ne l'adresse pas aux foules, non. Il l'adresse à chacun, de façon individuelle. Il faut que chacun lève l'option. Qui va-t-il suivre? Est-il prêt à suivre l'Église? C'est bien bon. Mais est-ce qu'on est prêt à faire, à renoncer à des relations privilégiées avec les membres de famille? Une sœur nous a posé cette question dans la veillée de vendredi à samedi. J'ai répondu que l'appel à suivre l'Église, c'est doit être considéré comme une radicalité. Dieu est très radical par rapport à suivre le Christ. Ce qui te double, ou tu veux devenir disciple, ou tu ne veux pas devenir disciple. Voilà pourquoi dans l'Église, on a beaucoup de membres, mais qui ne sont pas disciples. Enregistrés dans les livres de l'Église, mais en fait, est-ce que chacun prend conscience qu'il est appelé à tomber derrière Jésus? C'est ça être disciple. Tomber derrière Jésus et dire celui-là, il devient mon maître. Et mon rôle, c'est quoi? C'est de le suivre. Il dit à gauche, tu vas où? Tu vas à gauche. Il dit à droite, tu vas à droite. Il dit arrête-toi, tu t'arrêtes. Lève-toi, tu te lèves. Marche, tu marches. C'est-à-dire que tu n'es plus le maître de ta vie. Tu as donné ta vie à quelqu'un d'autre. Et celui-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Mais cela ne sera possible que si l'action du Saint-Esprit agit. Voilà les liens que nous établissons entre la Pentecôte et le fait de devenir disciple. Nous pouvons commencer la vie chrétienne le même jour, très nombreux, mais nous n'allons pas tous évoluer de la même manière, parce que ça dépend de la manière dont l'Esprit opère dans notre vie. L'Esprit de Dieu peut être en nous, mais nous n'obéissons pas à l'Esprit de Dieu. Nous ne laissons pas conduire selon l'Esprit, mais nous marchons selon la chair. Nous laissons conduire selon l'idéologie du monde qui nous entoure. Nous laissons conduire selon les principes des hommes et non selon les principes de la parole de Dieu. Et à ce titre-là, nous ne sommes pas fondamentalement disciples. Jésus s'adresse à toi. Il te demande de refuser de te mettre au centre de ta propre vie. De refuser d'accorder priorité au lien légitime qui te lie aux membres de ta famille. C'est important d'avoir une famille. D'avoir un père, d'avoir une mère, d'avoir des enfants, d'avoir des parents. D'avoir une femme, c'est d'avoir un mari. Jésus nous invite plutôt à ne pas laisser ces liens-là nous encombrer dans notre appel à devenir disciples. Bien-aimés, c'est ça le message d'aujourd'hui. S'il y a à sacrifier, il faut sacrifier. S'il y a à rompre, il faut rompre. Tout ce qui devient un obstacle pour toi pour être disciple du Christ ne peut pas apporter la joie ni la bénédiction. Très souvent, nous les parents, nous commettons des erreurs. Disons, si tu ne le fais pas, donc je ne suis plus ton père. Ah bon? Si tu ne le fais pas, je ne suis plus ta mère. La question qu'il faut poser à l'enfant, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si un enfant est en train de se comporter négligemment, ne suit pas les conseils des parents, ce n'est pas normal non plus. Mais pour une question où on doit savoir quelle est la volonté de Dieu, nous devons être sensibles à la volonté de Dieu. Il y a des questions fondamentales pour lesquelles on doit laisser la volonté de Dieu s'exprimer. C'est comme la question du mariage. Votre fils veut se marier ou votre fille veut se marier. La première question que vous posez, vous dites, il est de quelle tribu? Ah non, ce n'est pas ça la question. Ça, ce n'est pas un critère de référence. Le critère de référence, c'est savoir, est-ce que ce garçon-là, cette fille-là, est un enfant de Dieu? Alléluia. C'est ça. Si nous sommes disciples, c'est ça la question. Mais les parents se précipitent pour, est-ce que il est de notre tribu, comme si c'est la condition sine qua non pour le mariage. Non. Non, si on est devenu disciple, c'est question de tribu, il faut mettre de côté. Alors, il y a des enfants qui ont été entraînés dans le mariage, tout simplement parce qu'ils voulaient obéir aux parents. Mais qui se marie? C'est lui, c'est elle. Qui va souffrir? C'est pas les parents, c'est les garçons ou la fille. Le vrai mariage, le seul fondement du mariage, c'est sur Jésus. C'est ce que nous enseignons, c'est ce que nous pratiquons. Parce qu'il faut que le Christ soit Seigneur de toutes ces deux-là pour qu'il soit possible de les laisser vivre dans un mariage qui va honorer le Seigneur. Alors, les parents peuvent-ils donner un avis? Oui, ils peuvent donner leur avis. Ils peuvent donner leur avis. J'ai déjà vu un jeune à Goma où est-ce qu'il voulait se marier et que les parents ont dit non, cette fille-là, tu ne vas pas l'épouser. Je lui ai posé la question, pourquoi? Il dit, les parents disent qu'il n'est pas de ma tribu. Je lui ai dit, ah bon? Et toi, qu'est-ce que tu dis? Il dit, bon, Baruch Hashem, je dois suivre. Et un autre était venu me poser la question, j'ai dit, bon, qu'est-ce que toi tu penses? Il dit, bon, en tout cas, moi, je suis convaincu que c'est Dieu qui m'a appelé à prendre cette sœur ou à prendre ce garçon pour devenir ma femme ou mon mari. J'ai dit, maintenant, ce que tu peux faire, c'est de laisser Dieu s'occuper des parents. De ne pas te bagarrer avec les parents, de ne pas te révolter avec les parents, mais il faut laisser Dieu lui-même. Si ça vient de Dieu, personne ne va s'opposer à ce mariage. Et Dieu va t'y aider. Très souvent, nous manquons de la patience. Bien-aimés, à ce dimanche de Pentecôte, il est urgent pour chacun de nous de répondre à une question fondamentale. Est-ce que nous remplissons le profil d'être disciple? Quel est ce profil? Il faut préférer Jésus en lieu et place de sa femme, de son mari, de ses enfants, de ses frères et sœurs. Il faut préférer le Christ, ton Seigneur, en lieu et place de ta propre vie. Il faut accepter de porter la croix chaque jour, c'est-à-dire vivre comme un crucifié chaque jour, renoncer à ta propre vie, à tes propres intérêts. Si bien, si merveilleux soit-il, tu dis non, ça ne plaît pas au Seigneur. Il faut marcher derrière lui. C'est quand même important parce qu'en fait, être disciple, c'est une chose la plus merveilleuse expérience qu'un homme, qu'une femme peut faire. Pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit parce que les enfants ont chanté « Désespérés, nous pouvons l'être. Abattus, nous pouvons l'être. » Mais quand le Saint-Esprit habite en nous, il fait quoi? Il nous soutient. Alléluia. Il nous soutient. Si le Saint-Esprit a changé notre vie, il a donné une nouvelle orientation à notre vie, même quand la tempête survient, quand les épreuves viennent s'abattre sur nous, quand l'angoisse vient envahir notre cœur, le Saint-Esprit est là. Et c'est la manifestation de la présence de Dieu qui nous soutient sur notre route. Nous n'allons pas tomber. Nous allons rester debout. Nous resterons fermes. Nous resterons inébranlables à cause de la présence de Dieu par le Saint-Esprit qui habite en nous. Au-delà de toutes les requêtes que nous formulons, prioritairement, nous avons besoin du Saint-Esprit. Je voudrais te poser la question de savoir, y a-t-il quelqu'un qui t'encombre? Je suis en train de terminer. Y a-t-il des relations légitimes, mais en fait qui t'empêchent de vivre comme le Seigneur l'attend de toi? Est-ce que ton propre statut t'empêche d'être un véritable disciple? Ton travail, tes possessions, tes biens. Peut-être même ton chômage. Le chômage peut empêcher quelqu'un d'être disciple. La maladie peut empêcher quelqu'un d'être disciple. Des requêtes formulées qui jusque-là n'ont pas trouvé de réponse peuvent t'empêcher d'être véritablement disciple. Bien-aimé, s'engager à être disciple, c'est comme construire une tour. Il faut s'asseoir. Il faut calculer. Est-ce que je suis en mesure d'aller jusqu'au bout de ses projets? C'est comme une guerre dans laquelle on s'engage, a dit le passage. Est-ce que je suis en mesure avec 1000 personnes de m'affronter avec celui qui en a 10 000? Est-ce que j'ai la possibilité d'aller jusqu'au bout, de mener jusqu'au bout mon entreprise? Ça ne sert à rien de commencer à être disciple et de s'arrêter à mi-chemin. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que si tu commences à être disciple et tu t'arrêtes à mi-chemin, bien-aimé, tu auras un problème. Tu seras comme du sel qui a perdu sa saveur. Et un sel de la mauvaise qualité qui a perdu sa saveur. Et lorsqu'il a perdu sa saveur, ce sel devient inutile. Il n'est bon que pour la terre. Il n'est bon que pour le fumier. Il n'est bon que pour être foulé aux pieds. Point très. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Avons-nous perdu notre saveur? Avons-nous commencé à un moment donné et à un autre moment on constate effectivement qu'il n'y a plus rien qui marche parce qu'effectivement nous avons perdu l'élan d'être ici. Nous avons Apocalypse chapitre 3. Je sais tes œuvres. Tu n'es ni comment? Que n'es-tu foi ou bien? Parce que tu es comment? Un homme froid. Ou bien, je vais faire quoi? Je vais te vomir. Bien-aimé, c'est une urgence de répondre à l'appel du Maître qui nous appelle à être disciples. Il n'y a pas d'autre option. Ou on est disciple, ou on ne l'est pas. Mais si on veut plaire au Seigneur, il faut fondamentalement être disciple. Il n'y a que lorsque nous avons décidé d'être disciples que nous serons froids. Nous serons chauds. Mais si nous sommes tantôt chauds, tantôt froids, nous sommes tièdes, la parole de Dieu dit que le Seigneur va nous vomir. Nous ne servons absolument à rien. Je voudrais que tu prennes quelques temps de réflexion pendant que nous chantons le cantique « J'ai soif de ta présence ». Et pendant que nous chantons, si tu te sens, c'est mon joyeux service plutôt, Francis. Pendant que nous chantons, on va chanter la première et la troisième strophe. Première jusqu'à la troisième. Pendant que nous chantons, c'est ça que tu as besoin que nous prions pour toi, on va en prier.
Yeah.
deux niveaux. Sens-tu que le Seigneur t'appelle à devenir disciple? À abandonner ta propre vie sans regret ni frayeur, à la grâce infinie du Christ qui aura opéré désormais dans ta vie, tu peux te mettre debout. Nous allons prier pour toi. Le deuxième niveau de notre appel, c'est que peut-être que tu as décidé d'être disciple, mais à un moment, tu t'es arrêté en chemin. Il y a des choses qui t'encombrent. Il y a des situations qui t'empêchent. Il y a des relations qui influent sur ta vie et tu n'as pas l'élan que tu avais au début. Il y a des situations qui te dépassent. Tu as aussi besoin que nous puissions prier avec toi. Nous allons vous demander, si vous sentez que vous êtes dans l'un ou tel autre groupe, de vous mettre debout. Nous allons prier. Pendant que nous chantons la troisième strophe, lentement. Que feu nouveau s'allume par ton amour à moi. Merci. Et dans demander de prier pour vous-même, de dénoncer dans votre vie ce qui ne marche pas, ce qui vous empêche d'évoluer selon l'appel et la vocation dans laquelle le Seigneur est en train de vous entraîner, de demander au Christ d'opérer dans votre vie par sa grâce toute puissante, mais surtout de vous donner le Saint-Esprit, le seul capable de vous aider à vivre une vie chrétienne normale, une vie qui l'honore et une vie qui le glorifie. Nous allons prier avec vous. Seigneur, nous voulons te bénir pour la grâce que tu nous accordes cette jour de Pentecôte, de célébrer cette journée qui est importante dans notre salut par rapport au plan que tu as conçu depuis l'éternité et que tu as réalisé à travers le Christ que tu as envoyé, qui est mort sur la croix, qui a été enseveli et qui a été exalté à la droite du Père par l'événement de l'ascension que nous avons célébré dimanche passé et qui se retrouve à la droite pour intercéder pour nous tous, pour ceux qui t'appartiennent en propre. Nous voulons te bénir, Seigneur, parce que tu nous rappelles que le Saint-Esprit, c'est la manifestation de ta présence, elle seule dans notre vie, la seule capable de nous amener à vivre une vie authentique, une vie qui t'honore, une vie qui te plaît, une vie qui a une signification profonde sur cette terre. Nous prions pour nos bien-aimés qui sont debout, afin que tu leur accordes la grâce, Seigneur, parce qu'ils ont été touchés par ta parole, qu'ils se sentent visités par toi, qu'ils se sentent pris en charge désormais par toi, mais qu'ils se laissent conduire par toi, qu'ils marchent selon l'esprit pour qu'ils ne fassent pas les désirs de la chair. Aide-les, Seigneur, à prendre position par rapport aux liens, aux encombrements dans leur existence, de ce qui les empêche à pouvoir évoluer. Nous prions qu'ils dénoncent toutes ces choses dans leur vie, qu'ils décident de te laisser les conduire toi seul, Jésus, de te marcher derrière toi et de te laisser comme le maître, le Seigneur qui va dominer leur élan de cœur, leurs pensées, tout ce qu'ils conçoivent pour leur propre vie, que ce soit pour le présent et pour l'avenir. Nous prions que dans les choix qu'ils font, Seigneur, ils se laissent conduire par toi et que ta volonté seule prime. Nous prions que ton Esprit Saint les y aide. Lui seul, Seigneur, peut remplir leur cœur et remplir toute leur vie et les aider à vivre une vie qui te glorifie cette terre. Bénis-les, Seigneur, et soutiens-les. Merci pour cet engagement qu'ils viennent de prendre devant beaucoup d'autres personnes. Nous avons besoin, Seigneur, que toi seul va les suivre, va les conduire sur le chemin de la vie et qu'il n'y a rien, absolument rien désormais qui va les empêcher de marcher sur le chemin de la vie. Maintiens-les, Seigneur, à garder le cap de suivre le Christ, de marcher avec lui. Qu'il pleuve ou qu'il neige, quelles que soient les circonstances de la vie, qu'il n'y a rien qui les arrête, mais que le Saint-Esprit continue à agir dans leur vie. Béni soit ton nom, parce que tu feras cela, parce que nous te prions au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.
Alléluia. J'invite la chorale à s'avancer pour un cantique, pendant que... Il y a qui sortent des services aussi.